Bertrand du Guesclin, la France est Tiphaine au cœur. Attardons-nous sur une existence exceptionnelle, une incroyable destinée, celle du petit noble breton Bertrand du Guesclin. Ne possédant rien d'autre qu'un courage et une bravoure hors du commun, il va devenir chef suprême des armées du royaume de France et être enterré à Saint-Denis, à côté des rois. Enfant mal aimé de sa mère, Jeanne Malmain, une très belle femme, Bertrand du Guesclin est l'aîné d'une famille de 10 enfants, famille de petite noblesse dont le manoir se situe à la Motte-Bruns, près de Dinan. Il est tellement laid que ses parents peuvent à peine le regarder. On le cache dans un coin sombre où il prend ses repas seul. Mais il est d'une force herculéenne et, dès l'âge de 6 ans, se venge des injustices que lui fait subir sa mère en renversant la lourde table du repas de famille d'où il était exclu. À 16 ans, il s'échappe chez son oncle de Rennes et participe à l'important tournoi donné à l'occasion du mariage de Jeanne de Penthièvre et de Charles de Blois. Ne possédant rien, il doit emprunter armure et monture. Son allure est si maladroite que toute l'assistance se moque de lui. Mais dès le premier engagement, il est vainqueur de son adversaire qu'il désarçonne et dont il renverse le cheval. 2 fois, 3 fois, 10 fois consécutives, il est victorieux. Il refuse une seule fois le combat. Sous l'armure en face de lui, il a reconnu son père. Et ce père découvre tout à coup que le fils qu'il méprisait est en train de devenir, sous ses yeux, un héros. Il le prend dans ses bras. Ce sera désormais son plus fidèle admirateur. Bertrand termine sous les ovations de la foule. Sa carrière militaire vient de commencer. Il réunit alors une bande de combattants qui lui seront fidèles jusqu'à la mort et s'installe dans la forêt de Pimpon, la mythique forêt de Brocéliande. Il y devient une sorte de Robin des Bois qui n'hésite pas à faire justice en faveur des pauvres. En France, de nombreuses bandes se sont constituées de la sorte. On les appelle des compagnies, mais elles ne sont pas toutes animées de nobles intentions et la plupart du temps se livrent au pillage. Dans la querelle de succession Montfort-Penthièvre, du Guesclin prend le parti de Charles de Blois et combat pour lui. En 1355, il est à Fougeray, en Ille-et-Vilaine, ville tenue par les Anglais qui soutiennent Montfort. Avec un compagnon, il se présente déguisé en paysan porteur d'un fagot de bois. Le guetteur de la tour est volontiers preneur du bois proposé, car la température est rude ce jour-là. Il vient soulever la herse d'entrée du château. Du Guesclin pose son fagot de façon qu'elle soit bloquée. Il lance alors son terrible cri de guerre.
« Notre-Dame, Guesclin !»
Et tous ses compagnons dissimulés aux alentours se ruent dans le château qui est enlevé. Du Guesclin part ensuite délivrer Rennes de la présence anglaise. Charles de Blois l'y arme chevalier. En 1359, il passe au service de Charles V, devient gouverneur de Pontorson. Ses exploits pour pacifier le Perche, le Maine, l'Anjou, la Normandie, lui apportent une célébrité et un prestige considérables. Charles V le récompense en lui donnant un domaine et un château. Le voilà riche. Il se rappelle alors le visage entrevu lors d'un combat singulier dont il était sorti vainqueur à Dinan. Un visage de femme la plus belle qui soit. Lui, l'homme le plus laid qu'on puisse imaginer. Cette femme, c'est Tiphaine Raguenel, une perle rare, Tiphaine, très rare. Jugez-en. Elle est non seulement très belle, mais aussi intelligente, discrète, aimante. Elle appartient à l'une des plus anciennes familles bretonnes. Bertrand, qui est habitué aux défis impossibles, la demande en mariage. Et elle se met à aimer ce guerrier couvert de gloire, mais si disgracieux. Les noces ont lieu à Vitré, à l'automne 1363, dans un véritable délire populaire. Leur bonheur sera sans nuages. Tiphaine, pendant les longues périodes où Bertrand guerroie, aime se retirer au Mont-Saint-Michel. Fait prisonnier à Auray, la bataille perdue contre le prince noir, du Guesclin est libéré grâce à la rançon versée par le roi de France, qui le charge alors de délivrer le royaume des compagnies infestant les campagnes. Du Guesclin, auréolé de sa gloire de combattant invincible, les rassemble sans mal à Châlons et les conduit en Espagne affronter Pierre le Cruel. Mais à la bataille de Najera, le 3 avril 1367, le Breton et ses compagnies affrontent le prince noir qui leur inflige une terrible défaite. Du Guesclin est emmené prisonnier à Bordeaux. Le prince noir l'y garde une année, au terme de laquelle il lui demande de fixer lui-même le montant de sa rançon.
« 100 000 doublons d'or !»
répond fièrement du Guesclin. Le prince noir lui répond
« Comment un pauvre chevalier breton pourra-t-il trouver une somme pareille ?»
Alors du Guesclin, à cette réplique passée dans l'histoire
« Sire, le roi de France en paiera la moitié, et le roi de Castille l'autre moitié. Et s'ils ne le veulent pas, toutes les femmes et les filles de France, sachant filer, s'useront les doigts pour ma délivrance. »
Le roi, le pape, Jeanne de Penthièvre et de nombreux seigneurs bretons paieront la rançon. Nommé connétable en 1370, chef suprême des armées royales, du Guesclin se bat contre les Anglais qui sont de retour en France. Il les chasse de Normandie, les combat en Guyenne, dans le Poitou, en Saintonge. En avril 1372, avec l'aide d'Olivier IV de Clisson, les Borniers d'Auray, fils du décapité de 1341 Olivier III, qui combat aussi contre le duc de Montfort, du Guesclin conquiert tout le duché de Bretagne, que gouverne Jean IV. Celui-ci s'enfuit en Angleterre. Charles V prend alors une décision politiquement très maladroite. Il décide l'annexion du duché de Bretagne. Les Bretons n'acceptent pas cet acte d'autorité et rappellent Jean IV qui revient triomphalement dans son duché le 3 avril 1379 à Saint-Malo. Jeanne de Penthièvre, qui a tant combattu les Montfort, l'accueille à genoux. Plutôt l'alliance que l'appartenance à la France. Déçu par la tournure que prennent les événements, du Guesclin, parti déloger une bande de pillards à Châteauneuf-de-Randon, en Gévaudan, y meurt d'une forte fièvre le 13 juillet 1380, épuisé. Depuis 1372, Tiphaine Raguenel, sa femme aimée, trop tôt disparue, attendait son parfait chevalier au paradis des grandes amours.
Christine de Pisan, biographe de Charles V. Toutes êtes, serez et futes, de fait ou de volonté putes. Ces deux vers que Jean de Meung a écrit en 1285, dans son supplément au roman de la Rose écrit par Guillaume de Loris entre 1225 et 1230, font bondir Christine de Pisan. Née à Venise en 1364, elle est la fille d'un médecin réputé, appelé à la cour de Charles V, qui comble de bienfaits la famille de Pisan. Mariée à 15 ans, veuve à 25 avec 3 enfants, et bien seule depuis la mort de Charles V en 1380, elle est harcelée par les créanciers. Elle fait face avec courage, poursuit des études qui la passionnent. Elle dédie un recueil de poèmes au duc de Bourgogne, qui lui passe commande d'un ouvrage sur la vie de son frère, le livre des Fêtes et Bonnes Mœurs de Charles V. Par elle, beaucoup de détails de la vie de ce roi nous sont connus. Par elle, la poésie s'est enrichie d'une créatrice exceptionnelle. Elle se montre en toutes ses actions féministe jusqu'au bout des ongles.